rock et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Phil Frétinier.
Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel pour l'émission Baroque ou classique, l'art français au XVIIe siècle, en compagnie de notre invité permanent Philippe Frétinier, conférencier, qui par ailleurs d'ailleurs intervient également en conférence parfois sur ce même sujet. Alors dans les émissions qui ont précédé, on a balayé plein de choses, et là où un peu à contre-pied, vous l'avez fait parce que habituellement quand on évoque la question du baroque, on pense d'abord à la musique, à l'architecture, éventuellement à la peinture. Vous avez pris contre-pied en commençant par la science, d'une certaine façon, en expliquant votre démarche. On va peut-être y revenir. Aujourd'hui, vous allez nous introduire un nouveau sujet qui, cette fois, effectivement, est plus communément associé à la question baroque, qui est la peinture. Après que vous nous ayez parlé de l'architecture pendant plusieurs émissions. Voilà. Donc la peinture baroque, je vous laisse la parole pour pouvoir nous éclairer un peu.
Alors, parler de la peinture française au XVIIe, en matière de peinture par rapport au XVIIe, c'est sûrement le pays dont c'est le plus compliqué. En Italie, c'est relativement clair. En tout cas, dans la première partie du XVIIe, il y a vraiment deux figures de proue qui initient la peinture romaine du XVIIe. C'est le Caravage et les frères Carrache. Alors pour préciser, parce que le Caravage, peut-être que tout le monde connaît, les frères Carrache peut-être un peu moins, mais ce sont notamment, je vais y revenir de toute façon, ce sont notamment les décorateurs de la fameuse galerie au Palais Farnèse. Alors je vais revenir à la fois sur les Carrache et l'importance des galeries au XVIIe. Mais si vous vous souvenez bien, quand on a plusieurs fois essayé de déployer la question du baroque, même de la déplier, j'ai à plusieurs reprises, notamment en parlant d'architecture, j'ai préféré parler d'art romain.
Hein. Oui, tout à fait, puisque de toute manière, la question du baroque pour vous n'est pas opérante et on va voir de quelle manière.
Et on va voir que justement c'est important dans la question de la peinture. Donc, il y a des pays où, comme donc l'Italie du début XVIIe, il y a des figures de proue clairement identifiées, parce que très connues, en tout cas le Caravage. Les Carrache sont loin d'être des inconnus, peut-être pour un cercle un peu plus restreint d'amateurs, mais c'est quand même aussi des grandes figures. Et puis il y a eu auparavant, parce que c'est lié au sujet, il faut revenir aux sources, il y a eu la grande école florentine avec Michel-Ange, Raphaël, la grande école vénitienne avec Titien, Tintoret et Véronèse, qui vont avoir beaucoup d'impact. Je vais développer tout ça, mais ça sert justement dans l'introduction de repère. Et puis, vous prenez l'Espagne au XVIIe, parce que on parle de siècle d'or aussi bien aux Pays-Bas qu'en Espagne. Bon, tout de suite, on pense à Velázquez, et puis des peintres peut-être un peu moins importants sur le plan artistique, mais tous ceux qui ont gravité autour de l'époque de Velázquez, des gens comme Murillo et d'autres. Le XVIIe du siècle d'or hollandais, bon, tout de suite, au moins trois noms, je vais les mettre par ordre de renommée, Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, qu'on qualifie dans certaines histoires de l'art de baroque, et j'arrive toujours pas à comprendre, même en acceptant, en faisant un gros effort pour accepter les poncifs habituels de la terminologie baroque, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut qualifier un peintre comme Vermeer de baroque, puisque pour moi c'est un peintre de l'intériorité, de l'intimité. D'ailleurs, la plupart des tableaux de Vermeer sont des tableaux d'intérieur, avec des scènes assez compliquées parce qu'il y a une symbolique. Bon, ouais. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal. Mais enfin, néanmoins, voilà, le XVIIe, c'est très, très identifié avec des grands chefs de file et donc des courants. Voilà. En France, c'est très, très compliqué. Alors, on va expliquer au long des émissions pourquoi c'est compliqué. D'abord parce que Si on prend deux des peintres les plus connus du XVIIe français, à savoir Poussin et Lorrain, ce sont deux peintres parmi les plus connus du XVIIe français qui ont fait passer l'essentiel de leur vie à Rome.
Mais d'où le lien avec la peinture romaine, forcément.
Donc, quand on regarde bien, finalement, il n'y a aucun des grands peintres archi-connus qui s'est trouvé à Paris au XVIIe. Alors pour moi, il y a quand même des grands peintres, je vais en parler, mais c'est vrai qu'ils sont moins connus. Ils ont traversé une sorte de purgatoire, d'une certaine façon. Là, il y a eu un grand renouveau après-guerre, qui avait commencé un peu avant. Mais bon, avec notamment, il faut citer son nom parce qu'il a joué un rôle extrêmement important, Jacques Tuillier, qui a fait des travaux, notamment sur Poussin, mais sur d'autres peintres. Il a été commissaire d'une exposition sur l'Aïr, il a travaillé sur Stella. Donc, ça a été un apport majeur parce que justement, il s'est beaucoup intéressé à la peinture française du XVIIe, qui était vraiment son sujet de prédilection en tant qu'objet d'étude. Et puis, il a apporté des travaux très importants en renouvelant l'approche de l'histoire de l'art, en repoussant la question de l'analyse stylistique, parce que les paradigmes stylistiques, culturels sont pas opérants non plus, en tout cas pas avec suffisamment de finesse dans le cas de la peinture française.
Mais pourquoi les peintres français avaient une notoriété? Alors est-ce que déjà au XVIIe ils avaient une notoriété très faible par rapport aux Italiens
non,
ou aux Espagnols?
Non. C'est-à-dire qu'ils ont en France, certains d'entre eux vont connaître une grande notoriété. Je vais citer Simon Vouet, Lorrain, bien sûr, Jacques Stella, l'Allemand, sur lesquels je reviendrai après, mais qui était au fond le maître de Philippe de Champaigne, parce que Philippe de Champaigne est venu travailler auprès de l'Allemand. Alors Philippe de Champaigne est peut-être aussi parmi ceux qui sont connus, mais ça a été une notoriété plutôt, je dirais pas hexagonale, parce que la France de cette époque-là ressemble pas à un hexagone, mais une notoriété nationale qui n'a pas fécondé la peinture européenne comme la peinture italienne, la peinture allemande ou la peinture flamande va le faire. Donc, mais ici, ils ont eu une certaine renommée pour beaucoup d'entre eux, mais c'est vrai qu'ils ont été éclipsés par des géants, parce qu'il faut évidemment excuser du peu. Il y a d'abord l'ascendance vénitienne et romaine que j'ai évoquée avec les peintres que j'ai cités. Et puis, les Flamands ont joué un rôle très important, parce que finalement, j'en profite un peu pour faire d'initiation à l'histoire de la peinture, un petit pas de côté par rapport au sujet, mais qui est quand même dans le sujet. Peu de gens ici savent, à cause de tous les poncifs qu'on manie autour de la Renaissance italienne, que la véritable impulsion dans l'histoire de la peinture italienne, elle vient des Flandres. Alors, pour une raison assez simple...
Il y avait les routes commerciales
entre
les Flandres et l'Italie.
C'est que les Flamands sont quelque part en avance... tout le monde connaît l'invention de la peinture à l'huile qu'on attribue à Van Eyck. Alors, faudrait regarder de près, mais en gros, c'est bien l'époque de Van Eyck. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les grandes familles italiennes ont des comptoirs à Bruges, à Gand, et ils sont évidemment fascinés par les peintres flamands dont ils font la connaissance. Ils leur font des commandes. Quand ils rentrent en Italie, ils remportent avec eux des tableaux italiens. Il y a eu une exposition qui s'appelait « Le siècle de Van Eyck » à Bruges, il y a pas mal d'années maintenant. C'était saisissant. Il y avait une carte à l'entrée. Et ils avaient identifié certains tableaux et leur parcours. Et on voyait tous les tableaux flamands qui descendaient à Rome, à Naples, enfin voilà. Et donc c'est ça qui a fécondé la peinture italienne est née à deux reprises. Je vais revenir à la deuxième reprise parce que là, ça concerne le 17e. Elle a été fécondée par la peinture flamande. Mmh. Voilà. Ça a fait un choc en Italie qui ne connaissait pas la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, grâce aux glacis, aux transparences, permettait de faire des choses absolument qu'on ne pouvait pas faire avec la tempera, qui était le médium utilisé à ce moment-là. Tout le monde connaît le fameux portrait qui est à la National Gallery, je pense, des époux Arnolfini.
Oui, bien sûr.
Hein, dans ce couple qui se présente. Alors, c'est vraiment une commande, ils demandent leur portrait. Et puis, il y a une construction en abîme, puisque derrière, il y a un miroir qui renvoie l'image du couple de dos, enfin, ainsi de suite. D'une certaine façon, ça préfigure les Ménines, hein, puisqu'il y a une histoire de miroir dans les Ménines aussi. Bah, le plus connu, on ne va pas faire l'histoire de la peinture flamande aujourd'hui, mais le plus connu, par exemple, c'est Rubens, on peut ajouter Van Dyck. Là, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des géants tutélaires pour l'Europe de la peinture du XVIIe, et ça n'a pas été le cas pour les 4/5 des peintres qui ont travaillé à Paris au XVIIe.
Oui, vous aviez déjà d'ailleurs évoqué les liens entre l'art et le mécénat, et en fait, on s'aperçoit que là, les grandes familles commerçantes d'Italie ont joué ce rôle majeur, et effectivement, la France était un peu à l'écart, pour le coup.
Alors oui et non, parce que je veux aussi quand même battre en brèche pour les idées toujours les poncifs. Il faut dire que on nous a seriné que c'était à la Renaissance que tout commençait, que c'était à la Renaissance le retour à l'Antiquité. J'invite les Chartrains à la cathédrale de Chartres. Il y a de nombreux endroits où on voit bien qu'ils n'ignoraient pas l'Antiquité. Ils la connaissaient pas forcément très très bien comme nous. On peut la connaître aujourd'hui ou même comme on l'a pu la connaître à la Renaissance. Mais l'Antiquité n'était pas méconnue. Il y a la figure de Pythagore, d'Aristote, de Cicéron qui sont sculptés au portail royal. Donc tout ne commence pas avec la Renaissance et il y a de grands peintres en France, avant la Renaissance italienne, avant les peintres qui vont venir pour la première école Bellefontaine, et puis la deuxième école Bellefontaine qui sera initiée par Henri IV, toujours à Fontainebleau. Mais on peut noter au moins deux noms qui devraient pas être inconnus tout à fait. C'est par exemple François Clouet, célèbre pour un portrait d'Henri IV, et puis Jean Fouquet, qui pour moi a peint un des plus beaux tableaux de toute l'histoire de la peinture occidentale, 1452, qui se trouve maintenant dans un musée à Anvers, une Vierge à l'enfant, qui est un tableau avec un chromatisme éclatant, sublime, très moderne, entre guillemets, d'une certaine façon, dans lesquels il y a des citations de l'Italie, puisque les anges qui sont peints en rouge derrière la Vierge, c'est vraiment inspiré de céramique de Della Robbia. Donc, vous voyez, ça commence avant, déjà. Hein. Et puis, la France n'est pas une terre où il n'y a pas de peintres. Ça, il faut sauter ça de la tête. Simplement, c'est vraiment un art qui est en général très assujetti aux commandes. Oui. La célèbre Vierge au chancelier Rollin, qui est un tableau absolument magnifique aussi. Et puis, ça ne sort pas du cadre français. Et c'est vrai que la France va être un peu rétive à toute influence extérieure. J'ai déjà raconté dans l'histoire de l'architecture que, par exemple, alors qu'on est dans la grande époque de l'utilisation des ordres en architecture, à la Renaissance, on va vouloir absolument un ordre français. Hein.
Alors on va continuer à explorer questions française spécifique, ces spécificités du XVIIe français dans la peinture, mais on va faire une petite pause musicale avec un morceau de Kapsberger.
Alors j'ai choisi Kapsberger parce qu'il est vraiment en rapport avec le sujet, parce que dans la suite de l'émission je vais expliquer que tout commence par se passer à Rome au début du XVIIe. De nombreux peintres français vont aller à Rome, mais c'est pas vrai seulement pour la peinture. On a des exemples en musique, et Kapsberger, c'est un Allemand. On l'appelle Tedesco, l'Allemand. Et c'est un luthiste, parce que c'est vraiment une grande époque pour le luth, hein, qui est un instrument que je chéris par-dessus tout. Bien, il vient à Rome, et il va passer une grande partie de sa vie à Rome. Il va composer un livre de tablature de luth et de clitarone. Et c'est un livre qui a été composé en 1630 à Rome. Voilà. Thank you.
Alors vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel, en compagnie de Philippe Frétinier, qui nous parle de l'art français au XVIIe, classique ou baroque, avec bien entendu maintenant, vous le savez, cette mise à l'écart, on va dire, du baroque en tant que catégorie, parce qu'il n'explique pas grand-chose. Notamment, vous nous disiez que dans la peinture française au XVIIe, c'était vraiment compliqué et très spécifique à la France.
Oui. Alors, je refais juste une petite parenthèse sur la musique qu'on vient d'entendre. Je l'ai choisie parce que d'abord, j'aime beaucoup ce compositeur. Et puis, ça bouscule les idées convenues et reçues sur la musique baroque, qui serait une musique de chochotte.
Oui, voilà. C'est très rock, hein.
Donc, voilà, c'est. voilà, j'aime bien bousculer un peu les idées reçues, comme vous savez. Ouais. Donc, alors. Dans le cas français, c'est vraiment très, très compliqué parce que faut revenir encore une fois aux sources. La peinture à Rome est fécondée par la peinture flamande et ça va continuer jusqu'au XVIIe. Mais il s'est passé des choses en Italie, évidemment, avant même l'arrivée de la peinture flamande. Il y a une longue tradition de peinture qui a commencé pour, grosso modo, avec l'école siennoise au XIIe siècle. Donc, il y a le foyer vénitien, il y a le foyer romain, et il y a des peintres flamands qui arrivent au milieu de tout ça. Alors, ça bouscule beaucoup les choses. Dans la ligne de la Renaissance, on est effectivement au retour à l'idéal classique, ça c'est vrai. Et puis, progressivement, vous savez, c'est jamais figé, les choses sont toujours, connaissent leur propre dynamique. Et donc, vers la fin du XVIe siècle, il y a ce qu'on appelle le maniérisme, aussi bien d'ailleurs en architecture qu'en peinture, en Italie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, on n'a pas assez de temps. Mais il se trouve que le maniérisme se détache vraiment du réel, hein, en exacerbant un certain nombre de formes, de sensibilités. Et du coup, ce mouvement part suffisamment loin pour entraîner une sorte de réaction à la fin 16e, début 17e, ce qui est, au fond, de sauter par-dessus le maniérisme en regardant en arrière et de revenir aux sources, c'est-à-dire le retour à l'idéal classique. Et pour les Carrache, comme pour Caravage, bien qu'ils vont avoir vraiment des carrières assez divergentes, le retour à l'idéal classique, c'est Raphaël. La deuxième chose importante, c'est que se débarrassant des sursignes que véhicule la peinture maniériste, cette idée de revenir au réel. Ça, c'est vraiment très important, c'est dans le cas du Caravage, parce que ça va beaucoup jouer dans la peinture française. Hein. C'est pour ça que je pose les jalons, là.
Le Caravage dans la façon de faire et dans les sujets traités.
Voilà, dans le sujet traité. Et puis, c'est vraiment l'exaltation du modèle tel qu'il est. Or, en France, on va avoir justement, c'est pour ça que c'est compliqué dans la peinture française, on va avoir les deux tendances. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance beaucoup à utiliser le modèle comme un point de départ pour reproduire un idéal. C'est-à-dire que le sujet qui va être peint sur la toile ne ressemble pas vraiment, c'est pas la copie du modèle qu'a posé dans l'atelier. Hein. Donc, ça trouve son lien avec ce qui s'est passé en Italie avant. Vous voyez, donc c'est très compliqué. C'est vraiment différents mouvements dialectiques qui sont à l'œuvre à ce moment-là. Caravage fait poser, même pour ses modèles carrément, les gens des bouges qu'il fréquente, des estaminets, ce sont des va-nu-pieds la plupart des gens qui sont exposés.
Oui, on voit bien avec des visages marqués.
Qui servent de modèle à Caravage. Alors comme il se passe plein de choses en Italie, les peintres flamands vont affluer à Rome. Alors, je vais citer deux noms parce qu'ils ont leur importance, qu'ils sont sûrement peu connus du public, certains sans doute, mais peu quand même. Paul Bril et puis Elsheimer. Et ils sont très importants parce qu'ils dans la peinture italienne, jusqu'à ce moment-là, le paysage ne sert que de fond et de manière allégorique On peut penser, par exemple, au tableau de Vinci, la Joconde, la Sainte-Anne et la Vierge. Le paysage, c'est un paysage imaginaire, figuratif. On trouve ça d'ailleurs dans le portrait du duc d'Urbino par Piero della Francesca aussi. C'est un paysage imaginaire. Le grand genre, parce que la peinture est hiérarchisée en genre, donc tout en haut, il y a la peinture d'histoire. Alors c'est au sens historia qu'il faut comprendre la peinture d'histoire, c'est-à-dire la peinture qui raconte une histoire. Alors les deux sources majeures au XVIIe, et notamment dans la peinture française, mais pas que, c'est vraiment la mythologie, essentiellement à partir des Métamorphoses d'Ovide, qui va être vraiment le texte de référence pour tous les peintres de l'époque. On va le retrouver notamment chez Poussin. Ce qui ne veut pas dire que les peintres soient délettrés, ils ne sont pas si lettrés que ça, mais Poussin, il connaît probablement les Métamorphoses d'Ovide par des traductions. Hein. On a une idée un peu de leur culture, puisqu'on a des inventaires de succession, on voit les bibliothèques qui sont assez minces. Bon. Premier sujet, donc, de la peinture d'histoire, la mythologie, beaucoup les Métamorphoses d'Ovide qui sont beaucoup lues à l'époque. Et puis, deuxième sujet, c'est la Bible.
Oui, bien sûr.
Alors, avec assez souvent, mais pas toujours, plus le Nouveau Testament, mais plus le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament aussi quand même. Hein. Et puis alors, en dessous, mais ça, c'est des catégories qui vont surtout se formaliser justement au XVIIe, il y a le portrait, et seulement après le paysage, qui est considéré un peu comme un genre mineur, sans importance, et puis les scènes de genre, avec la nature morte, et ainsi de suite. Or, les deux Flamands dont j'ai parlé, Paul Bril et Elsheimer, vont apporter justement une nouveauté dans la peinture de paysage à Rome. C'est encore une fois les Flamands qui fécondent la peinture italienne en peignant des paysages qui sont assez réels et dont le sujet principal du tableau, c'est le paysage. Alors ça, c'est une grande révolution pour l'Italie. On va retrouver ça, l'importance du paysage dans la peinture française, avec notamment Poussin, justement. Et ça, c'est vraiment... ça fait de Rome le lieu où tout se passe, parce qu'il y a des grandes figures, Caravage, les Carrache, il y a les Flamands, on vient un peu de toute l'Europe à Rome, c'est là où tout se passe. C'est... comme pour l'art contemporain aujourd'hui, New York, où c'est à New York que tout se passe. Autrefois, ça a été Paris. Au début du XVIIe, en tout cas, c'est à Rome que tout se passe. Et donc, évidemment, les peintres français vont descendre à Rome parce que, nouveauté, mais ça, c'est dans la foulée des deux Renaissances Bellifontaine. Donc, pour l'auditeur, je rappelle la première Renaissance Bellifontaine. Donc, c'est François Ier.
Hein. Bien sûr, ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé dans les manuels d'histoire la Renaissance.
Voilà, avec le Rosso, le Primatis. Hein, je pense que tout le monde a entendu ces noms-là au moins une fois. Alors, une des raisons, il y a deux raisons pour la venue de ces peintres en France, et ça va bouleverser le paysage, c'est que, justement, dans la fameuse galerie de François Ier, je reviendrai sur l'importance des galeries, parce que la décoration des... il y a une effervescence architecturale dont on a déjà parlé, et on décore les intérieurs aussi. Et ça joue un grand rôle dans le développement de la peinture, notamment en France, mais en Italie aussi. Donc, François Ier fait venir les peintres italiens pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a vraiment eu un coup de foudre pour l'Italie. Pour préciser les choses, le vrai grand coup de foudre, c'est Charles VIII.
Oui, bien sûr, avec ses campagnes
qui lui descend jusqu'à Naples.
Oui, hein. Avec une campagne d'Italie assez malheureuse, d'ailleurs.
Voilà, alors que François Ier... il ne descend pas très bas, puisque essentiellement, ce qu'il occupe, c'est Milan. Avec Ludovic le Mort, qui justement a été l'un des mécènes de Vinci. Donc il fait venir des peintres italiens parce qu'il a un amour de l'Italie, mais aussi parce que justement, en France, il n'y a pas de peintre capable de faire de la grande peinture d'histoire dont François Ier souhaite décorer la galerie. Alors évidemment, c'est un choc pour les Français. Et un peu plus tard, donc là on est vraiment dans ce qui nous occupe, le XVIIe, donc Henri IV, quand il décide de continuer à développer Fontainebleau, il fait venir là aussi des peintres d'Italie et il commence à faire travailler des peintres français comme Toussaint Dubreuil, Martin Fréminet, qui sont des noms sûrement peu connus. Et là, il y a vraiment la peinture qui prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de peintres qui ne sont à ce moment-là encore que des artisans. Et à l'exception notable de Poussin ou de Callot, autour desquels il y a beaucoup de légendes, mais enfin bon, qui n'étaient pas issus de milieux de peintres, parce qu'on raconte que Callot est parti, a quitté ses parents avec une troupe de bohémiens. Enfin bon, en tout cas, Callot Poussin n'était pas d'une famille de peintres, mais pratiquement tous les autres sont issus de familles de peintres et des fois se marient avec la fille d'un peintre. Bon,
comme dans les traditions artisanales d'autres métiers.
Voilà, bah oui, parce que de toute façon, la peinture est régie par le système des corporations. Ça aussi, ça va avoir une importance.
Oui, donc on voit comment l'histoire de la peinture, enfin la peinture à l'époque, est complètement européenne. Comment les courants, les influences se traversent. Ça vient des Pays-Bas, ça passe par Rome, qui est le centre du monde artistique à ce moment-là. Et ça arrive en France.
Je vous ai dit, je crois en aparté, que c'était compliqué, mais c'est vraiment compliqué parce que c'est pluriel, comme on dirait maintenant. Hein.
Oui, on détaillera ça dans les prochaines émissions autour de la peinture française. En attendant, pour conclure celle-ci, un morceau de musique à nouveau. Alors, de Buxtehude.
On est toujours dans le 17e. Et donc Buxtehude, c'est un compositeur extrêmement important. D'abord, c'est sublime. Et puis, ça a été considéré par Bach comme un maître. C'est vraiment un des trois grands B, comme on dit, concernant la musique allemande. Il y a Buxtehude, Brahms et Bach.